Voilà, ben peut-être juste un dernier pour parce que donc on est aussi bien sûr on évoque l'histoire, mais c'est aussi de parler des choses actuelles. Donc là j'ai pris un peu comme ça aussi, je répète de manière intuitive, un catalogue qui nous a été remis par un centre d'art voisin, relativement voisin, en Suisse, un peu après Bâle. Et il y a un artiste là qui travaille pas mal là-dessus, donc une artiste, Laurine Huret. Peut-être pour évoquer donc en plus de ton propre travail, mais si tu as toi-même soit des amis ou des gens que tu connais pas, mais dont tu apprécies le travail, que tu pourrais citer, qui sont des artistes ou des chercheurs artistes, justement, qui sont, on va dire, un peu dans le voisinage de cette recherche. Bon, là, c'est simplement le catalogue de l'édition de l'expo là-bas, qui pourrait être intéressant de citer comme des gens à suivre ou dont on peut s'intéresser au travail.
Oui, moi, je pense qu'il y a il y a aujourd'hui une tendance où je me sens proche. Donc, il y a des gens comme Jonas Lund, comme Artie Werkent. À New York, Jonas est il est à Londres, ou à Berlin, il est à Berlin encore. Chez les Français, il y a Astrid Luz et Emile Mold en duo. Il y a d'autres artistes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui et qui travaillent. Moi, ce n'est pas la technologie de l'intelligence artificielle qui m'intéresse. C'est comment, à un moment, la question de la technique dépasse très largement le cadre de l'instrumentalité. Et comment la technique est un monde au sens vraiment complexe du terme. Le fait de ramener la technique à l'instrumentalité, ça nous rassure, mais ça ne fait que bizarrement répéter ce que nous pouvons craindre de la technique. Donc c'est des gens qui vont travailler, toute cette génération, dont je me sens proche, sur le caractère, on va dire, symbolique de la technique, tout autant que fonctionnel. Et donc ils vont beaucoup moins que dans l'art numérique, ils vont pas tellement travailler sur des œuvres autonomes, mais plutôt sur des contextes. Ce qui fait qu'effectivement, Lorraine Huret, mais il y a d'autres personnes qui travaillent parfois beaucoup sur la documentation et sur la généalogie de ça. D'ailleurs, parfois, je dirais jusqu'à un peu l'overdose, parce que nous sommes dans une époque où il y a une accumulation de data qui ne sont pas toujours des archives, qui fait qu'on peut être submergé par ça et qu'il y a eu une grande mode depuis une quinzaine d'années autour de la redécouverte de Warburg et des Atlas, qui fait qu'on a eu beaucoup d'expositions athlétiques, on va dire, sur la documentation, etc., qui demandait beaucoup de lecture. Moi, il y a une voie qui m'intéresse sur ce domaine-là, c'est comment on entrelace ce travail archéologique avec un travail de fonctionnement. C'est-à-dire comment l'intelligence artificielle n'est pas seulement un objet qu'on va regarder de l'extérieur, mais comment on va y rentrer et comment on va vraiment l'utiliser selon d'autres voies. Je pense que oui, les artistes que j'ai cités travaillent dessus très très largement. Et sur ce contexte, parce que ce n'est pas une technologie localisée, c'est plutôt presque une époque. C'est une époquée presque au sens stieglerien ou heideggerien. Mais je vois d'autres livres là qui sont. On pourrait.
Parler. Ben oui, après
on peut le passer. On peut passer rapidement.
Oui, bien sûr, vas-y. Moi, c'était vraiment.
Oui, Marcus Gabriel. Voilà. Alors bon, j'avoue que je m'en sens pas du tout proche. C'est pas un auteur que j'aime beaucoup. Je ne comprends pas son succès. J'avoue, je trouve que c'est philosophiquement c'est assez assez un. Donc Marcus Gabriel, même si il s'inscrirait, mais je ne crois pas qu'il s'y inscrit dans une tendance qu'on appelle réalisme, matérialisme spéculatif, ce livre, Pourquoi je ne suis pas mon cerveau, alors vraiment très concrètement, me semble infiniment moins intéressant qu'une autre référence qui essaye de confronter la philosophie et les neurosciences, bien sûr Catherine Malabou, qui vraiment, avec ses livres sur la plasticité, sur la neurologie, sur le cerveau bleu, donc sur l'intelligence artificielle, me semble avoir une pensée beaucoup plus ambiguë sur ce sujet.
Plus fine peut-être.
Oui, plus fine, plus ambiguë. La finesse, c'est l'ambiguïté, quelque part. C'est quand il y a plusieurs facettes, hein, c'est le côté perspectivisme nietzschéen. Et chez Catherine, il y a une sensibilité où elle reconnaît parfois des erreurs, ce qu'elle fait dans le cerveau bleu. Et pour moi, Catherine est une des grandes philosophes françaises actuelles qui, à partir d'une tradition philosophique continentale, liée à Derrida, liée à tout ça, se confronte aux neurosciences, mais pas dans le régime de la dénonciation, dans le régime de qu'est-ce qu'on peut en prendre. Après, Stan, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Mais
bon, voilà,
ça peut-être va nous entraîner vers des...
Voilà, dans d'autres, d'autres sphères, peut-être, pour évoquer ce beau, beau visuel, puisque c'est vrai que c'est une, toute une collection qui avait...
Bien sûr.
Un très beau travail. Ben écoute, merci bien d'avoir pris ce long temps finalement. Enfin, il n'y a pas une histoire de durée, mais en tout cas, un parcours intéressant avec des rebonds, c'était tout à fait ça l'idée. Et donc, on va pouvoir.
En tout cas, ce qui est amusant dans les livres, pour finir, dans les livres, c'est qu'il y en a au moins trois avec lesquels j'ai une histoire personnelle.
Voilà.
Et c'est là où on se rend compte que les livres, c'est pas seulement des livres. C'est d'abord des fragments d'existence et ce sont des gens où. Pas encore morts, ou déjà morts, qui sont là.
Voilà, qui sont reconvoqués le temps d'une conversation. Merci bien.